RMC.
I am very happy. I am sure with my staff that a good work for this season.
Le Super Football Show.
We were 15 teams. Now we are 13. Alors my job is to ask FIFA to come back to 15. Was my English was good?
Jusqu'à minuit, c'est l'After Foot, Jean-Louis Tour.
L'After est là avec Daniel Riolo, avec Pierre Ducrot. Comme tous les lundis, c'est le moment d'accueillir nos drôles de dames. Simone Rovera pour l'Italie. Salut Simone.
Ciao, buonasera, bonsoir.
Fred Hermel en Espagne. Salut Fred.
Hola chico.
Philippe Auclair en Angleterre. Salut Philippe.
Good evening guys.
Et David Lorto en Allemagne. Salut David.
Allo Freunde, salut à tous.
Bon, Philippe, la sensation du soir, elle est pour toi quand même. Hein.
On y reviendra. Quel match incroyable entre Wigan et Manchester City. Wigan Détroit qui élimine donc.
Mais c'est
Manchester
incroyable. Il y a qui à City sur le terrain.
Il y avait tout le monde.
Mais comment c'est possible?
Eh ben écoute, tu as loupé un match fantastique, tout simplement, avec une équipe de Wigan complètement héroïque et un but signé, qui d'autre? Will Grigg, vous vous souvenez de lui?
Bien sûr.
Will Grigg on fire. Eh ben il était on fire ce soir, son 7e but cette année en FA Cup. Et Wigan, leader de la Ligue 1 avec Détroit, qui élimine Manchester City avec Aguero, David Silva, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, Kyle Walker, tout ce beau
monde. On y reviendra tout à l'heure, Philippe.
Oui, absolument.
Oui. Allez, parfait. On y va, messieurs. Premier avis tranché du soir. On se tourne vers l'italien. Simone.
Ah bien, tout va bene. Tout est bene, vous avez raison.
Qu'est-ce que c'est ça?
Simone, tu veux nous parler de Naples?
Tu laisses. Oui, et les résultats de ce soir de Wigan me donnent encore plus envie de parler de Naples et encore plus de rage. Ce qu'a fait Naples, qui vit en saison très belle en Serie A, encore 9e victoire d'affilée, pour vous dire, face à l'Aspa ce week-end, première, belle lutte avec la Juve. Mais qu'est-ce qu'elle a fait en Europe cette année? Qu'est-ce qu'elle a fait encore jeudi face à Leipzig, avec une équipe B, presque, au San Paolo? Ce soir, même Leipzig a perdu, mais c'était la première des Serie A face à la deuxième de la Bundesliga. C'était une sacrée belle affiche. Et t'as eu une équipe qui n'a pas joué, oui, bah, s'est retrouvée même par hasard devant d'un but.
Après, ils ont perdu 3-1
à domicile. Donc, ils sont déjà presque éliminés. On dirait qu'ils ont bradé l'Europa League comme ils avaient fait par la Ligue des Champions. Et ça m'a vraiment énervé parce que s'ils sont en train, oui, peut-être de vivre une saison incroyable en championnat, ils donnent encore une fois une mauvaise image au football italien en Europe parce que il faut pas mépriser l'Europe, et parfois on l'a fait trop dans cette année avec les clubs en Ligue Europa, surtout. Et Naples est aujourd'hui une équipe dont on parle énormément pour les jeux, pour les résultats, pour la façon dont ils ont bien géré une partie des matchs face à City, c'est en Ligue des Champions, pour les huitièmes et finales de la saison dernière face au Real Madrid. Et Maurizio Sarri nous a dit, même plusieurs fois dans ce week-end et après les matchs, qu'au final, même la ville de Naples, l'ambiance, les gens qu'il rencontre dans la rue, tout le monde veut la Serie A et tout le monde lui dit que la Ligue Europa n'était pas intéressante. Donc, comme si les charcutiers, ou celui qui vend les légumes à Maurizio Sarri, va faire en sorte que, bon, c'est eux qui décident comment jouer l'Europa League. Ça m'a vraiment agacé parce que les joueurs, nous dit Sarri, ils n'ont pas intérêt. Ils mettent pas la même intensité en Europa qu'en championnat. Et cette année, c'était déterminant, c'était important pour l'Italie à niveau d'image, parce que dans les classements UEFA, on est repassé devant l'Allemagne. C'est-à-dire, ces 4 places pour la Ligue des Champions automatique de la prochaine année, c'était presque mérité. C'était pas seulement les magouilles de Agnelli ou de la Fédération italienne, de la Ligue italienne, comme tout le monde a dit depuis des années. C'est-à-dire, c'était des résultats.
Attends, on est où du président, parenthèse?
Les présidents, en ce moment, de la Ligue de Serie A, c'est les présidents du comité olympique, qui t'imagines, il est où en ce moment? Il est à Pyongyang, au jeu.
Ah oui.
Donc, il s'est nommé, qu'on peut dire, commissaire ad intérim de la Ligue, et il est parti aux Jeux Olympiques. Donc, c'est la situation que vit le foot italien. Et Naples n'aide pas. Déjà, c'est un club qui a plein de problèmes à bâtir quelque chose pour l'avenir, même si Sarri, c'est un entraîneur extraordinaire. Il y a des joueurs, plein de joueurs qui refusent d'aller à Naples. pour la ville, pour les histoires, parce qu'ils se voient plein de films à la télé, ils croient que là-bas, ils ne peuvent pas vivre. Il y a eu Gonalon à l'époque, il n'a pas voulu aller. Il y a eu Tolisso qui ne veut pas aller, qui n'a pas voulu aller là, il y a deux ans. Il y a eu Simone Verdi, attaquant de Bologne, qui cet hiver a refusé d'aller à Naples, oui.
Pour la ville ?
Parce que, au final, Naples, ce n'est pas la ville, les séduits pas.
Il regarde trop Gomorra, là.
Vous ne pouvez pas leur prendre des villas à Capri avec une navette qui ferait pour les emmener à l'entraînement
Là, c'est un discours qui va au-delà. Mais c'est-à-dire, Naples, ce n'est pas un club vraiment séduisant. Cette année, beaucoup de joueurs ont décidé de rester pour gagner les titres, ok. Le risque, que si Naples gagne les titres, tu te retrouves après avec rien derrière. L'Europe, c'était quand même important, comme c'était important la Coupe d'Italie, parce que pour gagner, il faut gagner quelque chose. Rien ne te dit que Naples va gagner la Serie A. Si gagne la Serie A, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais après, il y a une façon de respecter certaines compétitions. La Ligue des Champions, déjà, c'était une compétition à respecter. À mon avis, ils ne l'ont pas fait vraiment. Pour vous dire, il y a 11 titulaires à Naples. Tout le monde les sait. Il y a Reina dans les buts, il y a Isai, il y a Albiol, Koulibaly, il y a Goulam, il y a Amsic, Alain, Jorginho, Mertens, Caleon, Insigne, tout le monde les connaît. 11 fois sur 25 pour l'instant en championnat, ils ont joué le même. C'est-à-dire, on sait qu'ils sont les mêmes, en considérant que Goulam, maintenant, il s'est pété les genoux. Donc voilà, il y a un remplaçant, mais il rentre dans la rotation comme titulaire. En Europe, une fois seulement sur 7 matchs, on a eu les titulaires. C'était le match retour face à City. Ça montre qu'il n'y avait aucun intérêt pour l'Europe. Paradoxe de la situation, sur le match aller-retour face à Nice, ils ont joué les 11 titulaires. Parce qu'aller en Ligue des Champions, c'est important. Après, avoir un rythme des Ligues des Champions, avoir une compétition des Ligues des Champions, mériter la Ligue des Champions, tenir l'image de Naples, de foot italien en Ligue des Champions, non. Donc, moi, je souhaite le mieux à Naples pour cette saison, en championnat. Je souhaite un miracle à Leipzig, mais j'y crois pas, parce que, déjà, j'ai entendu qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont même pas partir.
Oh non,
pour les déplacements.
Mais non.
Je sais pas. On devrait avoir.
Laissez-le espérer.
On devrait avoir titulaire.
Il espère même pas.
Titulaire pour la première fois de la saison, Machak, qui est arrivé en janvier, donc, joueur dont on avait presque oublié qu'il existait même en France, qui n'a pas pris parce qu'il y avait personne qui en trouvait des mieux. Mais dis-moi, David,
en Allemagne, ils ont dû halluciner là, Leipzig, de voir Naples arriver avec une équipe comme ça.
Oui, c'est vrai. Mais alors, je voudrais quand même rapidement donner un bémol à ce que dit Simone, parce que certes, Naples a dû balancer un peu ce match-là et d'autres, comme l'explique très bien Simone, mais en face, je peux vous dire qu'il y a une équipe qui est particulièrement coriace à dominer, qui est particulièrement en vue cette année aussi en Allemagne, et c'était pas forcément l'adversaire effectivement idéal. Ce que je veux dire,
il y avait presque 11 titulaires,
j'ai regardé, c'est plus ou moins les joueurs qui ont plus de minutes.
Mais je crois que le but n'était pas de minorer ce que fait Leipzig moi je comprends tout à fait ton avis. Maintenant, qu'est-ce que tu veux faire s'ils s'en foutent? Et s'il l'annonce depuis le début et qu'on le sait. Dès cet été, on en avait parlé ici. On sait. Toi, tu dis, c'est pas le charcutier, le marchand de fruits qui va dire à Sarri quoi faire. Il n'empêche que tu sais comment fonctionne cette ville et ce club. Si Sarri, il est en mission avec tous les joueurs qui sont restés alors que certains auraient pu partir pour ce fameux Scudetto, parce que ça fait des années, parce que c'est une sorte mission pour le Seigneur, soyons champions cette année, faisons tout pour ça. Ils ont décidé de tout balancer à côté. Moi, ça me paraît un peu fou. Mais si c'est leur choix, eux tous.
Et puis, il y a des bouchers charcutiers
à qui ils se doivent plus qu'au peuple napolitain. Alors, supporter.
Quand tu es la 35e équipe à niveau UEFA cette année.
Mais ils n'ont pas pour mission de porter le foot italien, Naples, après tout.
Oui, mais tous.
Toi, tu fais un discours institutionnel.
Tout doit avoir cette mission aussi.
Oui, mais je comprends ce que tu veux dire.
Refuser ou mépriser un compétiteur à tel point.
Je comprends, mais tu sais, pendant des années, les Anglais jouaient les Coupes d'Europe avec priorité absolue de toute façon à leur championnat, et encore même récemment, et je me demande si de toute façon traditionnellement la compétition nationale n'est pas plus importante que l'internationale.
Peut-être. Et moi je veux pas te mettre dans l'embarras, Simone, mais je me rappelle, parce que je t'écoute attentivement tous les lundis soirs, et je me rappelle d'un avis tranché que tu avais fait vers octobre, où tu disais que Naples ne devait justement jouer que la carte du championnat cette saison et surtout pas la Coupe d'Europe.
Oula, moi,
tu retrouveras.
Voilà,
Pierre. C'est comme le mec de Twitter qui te ressort des tweets il y a deux ans.
Non, mais
je pense toujours être de l'autre côté. J'ai l'impression que dans un moment de difficulté,
toujours est-il que de toute façon, il n'y a pas de surprise vraiment là-dedans. Depuis cet été, on savait, ils l'ont pas vraiment caché. Mmh. Ils l'ont annoncé très tôt que c'était tout pour ça.
Mais oui.
Moi, j'ai pas été surpris pour faire plaisir à Jean-Louis et à son agence de bookmaker à Londres.
Tu les mettais pas favoris contre Leipzig.
Sur un match contre Leipzig, pour moi, ils passaient pas parce qu'il y a une équipe d'abord qui joue très bien, qui est forte, coriace comme a dit David, et que si en face tu fais pas tout à 100%, tu l'élimineras pas. Et que Naples, ben voilà, ils sont dans ce truc-là cette année. C'est une saison à part pour eux.
Et s'ils gagnent pas, s'ils gagnent pas la Serie A,
quand tu mises tout sur décroches pas le pompon. Mais l'année prochaine, c'est ça en fait qui est fou, c'est qu'ils vont retourner en Ligue des Champions. Si quoi qu'il arrive, même s'ils sont pas champions, ils vont y aller. S'ils sont champions, donc là pour le coup, ils vont être porte-drapeau du football italien en tant que champion. Combien de joueurs ils vont perdre dans cette équipe?
Ce que disait Simonet, il y a le risque qu'il n'y ait personne.
Et les problèmes, c'est que face à Leipzig, il y a des joueurs comme...
Est-ce qu'ils vont vraiment en perdre? C'est une équipe qui est particulière avec des profils de joueurs qui sont pas forcément...
Ouais, tu vois pas Hamsik là, aller ailleurs.
Hamsik,
aujourd'hui, il est plus vraiment top. Hein.
Mertens, il a une clause ridicule qui est 28 millions. Goulam peut partir. Koulibaly pourrait partir. Il y en a des joueurs qui pourraient tranquillement partir. Non, mais c'est que pendant toute la saison, on a eu presque tous les mêmes. Je disais, il y a 11 titulaires. Sur 25 matchs de Serie A, 20 fois, tu l'avais 10 sur 11.
C'est pour ça que je te parle d'une mission. Ils sont en mission à 13
minutes. Et face à Leipzig, tu as eu des joueurs avec 200, 300 minutes joués pendant toute la saison titulaire.
Bien sûr.
T'as pas préparé même pas la compétition européenne. Mais tu fais des rotations qui sont vraiment très très petites parce que tu veux gagner. Tu as eu deux fois l'once titulaire, les titularissimi, comme on dit en Italie, face à Benevento, qui est une équipe qui, on va raconter la belle histoire qu'ils ont gagnée avec les buts des Sheikh Diabaté et avec Sagna sur le terrain, qui peut nous dire que ce week-end a été un week-end très intéressant pour eux. Mais quand même, c'est-à-dire, t'as eu les titulaires face à Benevento. Et pas dans les deux matchs face à Manchester City, seulement une fois. Moi, je trouve quand même que ça veut dire que l'Europe, ça n'intéressait pas, mais c'est pas un bon message. Donc, si jamais, même si Naples gagne, ça peut donner l'idée à d'autres équipes. Bon, on va tout mettre sur la Serie A et on va oublier l'Europe. Bon, ok, dans 2-3 ans, même ces quatre clubs directs en Ligue des Champions, on l'aura pas parce qu'on sera plus 3e, on sera plus 4e, on sera 5e, 6e, 7e. C'est pas la façon de gérer l'Europe.
Simonet, dans l'actu en Italie, il y a l'Inter qui n'y arrive toujours pas. Il y a eu une victoire la semaine dernière.
Oui, mais c'était un trompe-l'œil. Oui, c'était pas. L'Inter n'arrive vraiment plus à trouver la solution. Déjà, Spalletti a commencé un peu à prendre les distances de ses joueurs en disant oui, mais peut-être c'est un problème mental. Mais si c'est pas l'entraîneur qui arrive à gérer les problèmes mentaux, de rester actif, concentré, même dans les moments difficiles, qui peut le faire? Je l'ai déjà dit il y a 2-3 semaines, c'est pas les présidents, c'est pas les propriétaires. Une habite en Indonésie, l'autre est en Chine. C'est des clubs qui ont toujours eu l'habitude d'avoir quelqu'un à côté, des proches, des forts. Et aujourd'hui, il y a personne de fort à côté de l'Inter. De l'autre côté du Milan, regardez, dès qu'arrivé Gattuso, j'étais douteux sur son management, mais ça c'était suffisant d'avoir quelqu'un qui... il a augmenté beaucoup les rythmes de travail, mais quelqu'un qui a donné, comment on peut dire, une étincelle à ses joueurs. Et Milan aujourd'hui fait une deuxième partie de saison très intéressante. Ils sont à 7 points de l'Inter, ils ont récupéré 11 points. En 2 mois environ, donc c'est quelque chose de vraiment extraordinaire ce que fait Milan. L'Inter, moi je ne vois pas où s'arrêtera la crise.
C'est quand même incroyable.
C'est samedi, il y a Benevento.
Mais il y a déjà eu un entraîneur qui s'est pas fait virer avec une série aussi noire à l'Inter, ça doit être
avec
rare.
Une victoire sur les 12 matchs, je pense
une
que c'est
en 12
c'est
matchs à l'Inter que c'est tu ne fasses pas virer, c'est rarissime.
Dans 2 semaines, il y a les derbies. Derrière, il y aura Naples, donc j'ai vraiment peur de voir la série
noire.
Mais
c'est quoi les joueurs sont nuls? C'est quoi? Comment c'est identifier le problème? Parce qu'il y a quand même des bons joueurs dans cette équipe. Et Spalletti, c'est pas la dernière des chèvres, quoi.
Bien sûr. Spalletti probablement a considéré plus simple que une défi plus simple de ce que c'était. Pensait qu'à Rome avait déjà vu une ambiance compliquée.
À un moment, on les voyait plutôt bien au début de la saison.
Ils en étaient premiers jusqu'à décembre presque. Donc Aujourd'hui, tu le vois 5e du championnat parce que là se passe devant, dehors de la zone de la zone Ligue des Champions. Et Spalletti continue à parler des problèmes de mentalité et de d'attitude. Donc c'est vraiment difficile de trouver une solution à ça. Et en face, t'avais une Genoa, une équipe normale qui joue un peu plus que les maintiennent, avec une Goran Pandev qui c'était une des zéros de du triplé été du 2010 qui a mis la misère à l'Inter. Donc imaginez.
Encore d'accord.
Quelle déception. Pandef.
Alors Simone
et
oui,
Pandev.
En un mot, la Roma qu'on retrouve cette semaine en Ligue des Champions, ça va, ils sont bien.
Ils vont mieux, ils vont mieux. Trois victoires d'affilée. Il y a toujours un problème un peu des Dzeko qui l'a marqué quelque chose comme 4 buts dans les 19 derniers matchs.
Ah oui, d'accord.
On l'a un peu perdu. Il se retrouve, je le disais.
Il est bien en Ligue des Champions.
Oui, il est bien en Ligue des Champions. On va voir. Il faut toujours espérer que Shakhtar, qui a repris la compétition ces week-ends, après une pause de 2 mois, ils ont gagné 5-0 face au Tchernomorets. Mais il faut voir dans quelles conditions on retrouvera les Shakhtar. C'est vraiment, je dis pas les jackpots, mais c'est la possibilité d'avoir la Roma en quart de finale. Il faut pas la brader. Il y a un jeune, j'ai parlé la semaine dernière, c'est Turk Çenik Ünder qui continue à marquer des buts. Encore décisive, l'attaquant turc des 21 ans. Il a trouvé dans son chapeau Di Francesco ça. Ça semble que ça puisse continuer. Après, les joueurs de qualité, ils sont là. Il y aura Strootman, il y aura De Rossi, Perotti, Dzeko. Donc, Kolarov, c'est une belle équipe. Il va lutter pour tenir cette troisième place en championnat et peut le faire, vu la difficulté de l'Inter. Et la Ligue des Champions, ça me semble un gros gâchis s'il n'arrive pas en quart de finale.
Oui. La Juve qui gagne le derby de Turin.
Ouais, classique, sauf que tu commences le match déjà sans 6 titulaires parce qu'il y a plein de blessés. Après 3 minutes, il se blesse aussi Higuaín qui devrait rester une semaine une semaine à l'infirmerie. Et donc tu fais les matchs, presque tous les matchs avec une trident offensif avec Douglas Costa, Alexandro qui est un latéral défensif et Bernardeschi. Tu arrives quand même à gagner dans les derbies. Tu termines les matchs, tu fais les matchs donc sans 7 titulaires. Je ne sais pas si dans une derby de Barcelone face à un Espagnol, le Barça sans 7 titulaire arrive à gagner sans laisser un tir cadré au Torino dans tout le match. Donc très solide.
Ils ont fait match nul. Puisque tu poses la question, avec l'équipe titulaire, ils ont fait match nul il y a 15 jours.
Est-ce que tu parles de Torino et qu'on a peu l'occasion de le faire, Belotti, qui était quand même un mec
saison compliquée
dans les 90 millions que l'Angleterre
s'est blessé
voulait.
Deux fois cette saison
très compliquée, Belotti.
Il s'est blessé deux fois au genou. Il est revenu très tôt parce qu'il voulait être déterminant pour la qualification de l'Italie à Coupe du Monde. Je ne dis même pas comment c'est terminé, soit pour lui, pour l'Italie, tout le monde le sait. Ouais. Et donc il revient un peu d'une façon pas très brillante après cette deux blessures au genou. Il a marqué un but week-end dernier face à l'Udinese, mais je les trouve vraiment dans une saison très très compliquée pour lui.
Ouais. Très bien, voilà pour l'Italie.
Une seconde, je dis Benevento qui a gagné. Il y a une image très belle, je vais vous le donner. Sagna et Sandro, l'ancien de Tottenham, qui fête cette victoire. Benevento encore à 11 points de maintien. Et deux joueurs avec une énorme expérience qui fêtent cette victoire devant les supporters comme s'ils gagnaient un titre. Je trouve que c'est une magie dans cette équipe.
Par Cheikh Diabaté,
le gardien.
Ah non, évidemment.
Cheikh Allez, messieurs, dans un instant, direction l'Espagne pour la vie tranchée de Fred Hermel. Qui va nous parler de Guedes. Et oui, on n'ira pas dire que c'est le porte-parole de Valence, mais il va nous parler de Guedes. Donc,
ne casse pas mon petit effet.
Ah mince, pardon,
j'ai prévu un truc.
Ah mince, pardon.
Oh là 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 là.
Ah, désolé.
Allez, oubliez tout.
Allez, à tout de suite dans l'after.
RMC, le super football show. L'after foot, Jean-Louis Tour.
Daniel Riolo est là. Pierre Ducrot est là également, tout comme nos drôles de dames qui vont s'enchaîner jusqu'à minuit avec vous. Bien sûr, au 32-16, n'hésitez pas à appeler pour réagir. On a fait l'Italie avec Simone Rovera, on prépare l'Angleterre, on prépare l'Allemagne, mais place tout de suite à l'Espagne. Jingle Fred Hermel.
Quelle est la meilleure Liga du monde? La Liga Espagnola.
Et donc Fred, tu veux nous parler de Gonzalo Guedes.
Eh oui, alors ce soir, je vais laisser de côté ma casquette de porte-parole du Real pour devenir conseiller spécial du Paris Saint-Germain. Voilà, j'ai changé de fonction.
Les supporters te remercient d'avance.
J'imagine.
Mais ils ont une affection pour toi toute particulière.
Mais bien sûr, mais ce soir, je vais leur montrer que je les aime. Ah oui. Parce que je vous assure que mon conseil, c'est pas bidon. Alors, en tant que conseiller du Paris Saint-Germain, je vais dire à Monsieur Enrique, surtout, ne vendez pas Gonzalo Guedes à la fin de la saison. On rappelle que le portugais est prêté sans option d'achat, attention, sans option d'achat au club de Valence en Espagne. Et que, vu la place qu'est en train de prendre ce joueur dans cette équipe et dans le championnat espagnol, la meilleure Liga du monde, comme le dit un très bon commentateur, c'est un joueur qui va valoir beaucoup d'argent au mois de juin. Alors c'est vrai qu'avec toutes les histoires de fair play financier, etc., le PSG a besoin de vendre. Il peut faire une belle plus-value sur ce joueur, mais bon, au-delà même des 40 millions que serait prêt à offrir Valence, puisqu'on le sait, il y a déjà eu des négociations dans ce sens, mais rien n'est fait pour l'instant. Parce que quand on est devenu un titulaire incontournable d'une équipe de Valence qui fait quand même une très belle saison et qui va faire son retour, si tout se passe bien, a priori on voit pas comment Valence pourrait ne pas terminer dans les quatre premiers cette saison de la Liga et qui va faire la saison prochaine justement son retour en Ligue des Champions, Guedes, il va avoir un prix sur le marché hallucinant. Donc il y aurait cette tentation du côté du Paris Saint-Germain en disant, tiens, on va faire des thunes, ça va être super pour le fair play financier, on va récupérer de la fraîche, comme dirait l'autre. Mais moi je pense, en tant que conseiller et en tant que modeste observateur de la Ligue espagnole, que ce serait une erreur.
Dans l'expression, parce que comme dirait l'autre, qui est l'autre? J'ai jamais su.
Mais l'autre, enfin, je termine là, parce que je te dirai après. Comme dirait l'autre, comme dirait quelqu'un, tu vois, comme on peut dire.
Ah, mais pas Jean-Philippe Auclair ou David Lorto, non.
C'est non, l'autre. Non, mais l'autre, c'est de toute façon, comme dirait l'autre, enfin, c'est l'expression de la langue française, tu vois, c'est comme Pierre qui roule de Maspamousse, quoi, tu vois. Pierre, je le connais pas, enfin, tu vois ce que je veux dire. Bref, comment ça? Mais si toi, je te connais.
Bon,
ne me coupez pas en allant. Tout simplement parce que Guedes, il a beaucoup de talent, on le sait. Il est jeune, il a 21 ans. Il est arrivé comme un espoir du football à Valence, prêté, parce qu'il n'avait pas sa place au PSG. Et en gros, c'est un ado qui est arrivé. Et quand il va quitter la meilleure Liga du monde au mois de juin, ce sera un homme. Parce qu'il a quelque chose de particulier que finalement, les grands clubs ont besoin. Et dont j'ai l'impression que le PSG a besoin. Guedes, qu'il ait du talent, on le sait, qu'il soit fort psychologiquement, qu'il soit très bon techniquement, qu'il comprenne le jeu. Mais surtout, et on l'a vu ce week-end, alors que Valence était menée 1-0 à Malaga et que rien ne marchait, c'est qu'il a cette capacité à prendre la responsabilité de son équipe. Alors qu'il vient d'arriver à Valence, alors qu'il y a des cadres à Valence. Eh ben non, Guedes, il a ça. Et à 21 ans, dans une équipe dans laquelle t'es prêté, et de dire, ce match-là, moi je vais le retourner en faveur de mon équipe. C'est ce qu'il a fait ce week-end à Malaga. Et ça, je suis pas sûr qu'il y ait autant de footballeurs que ça qui aujourd'hui soient capables de prendre leurs responsabilités et de devenir des patrons, parce qu'ils ont dit, parce qu'il s'est dit, à partir de maintenant, ça se joue au rythme que j'ai décidé. C'est moi qui prends la balle, c'est moi qui crée les occasions. D'ailleurs, il est essentiel sur le deuxième but de Valence, parce que c'est un penalty qui vient après une passe décisive, mais il a tout essayé. Et ce genre de joueurs, ce sont des perles. Donc, oui, c'est tentant de vendre Guedes, de le récupérer au mois de juin et de le vendre, mais je termine là-dessus. Mon conseil au PSG, gardez Guedes, vendez Di Maria, vendez Draxler. Franchement, celui-là, il a beaucoup plus d'avenir.
Daniel, Pierre, je pense que vous en pensez. C'est ce qui sera fait, hein.
De le garder, ouais, et de pas le vendre.
Sauf si le fair play financier est là.
Comme a dit Fred, tu vends Draxler ou Di Maria.
Ouais, si ça suffit, oui.
Bien sûr que ça suffit, il en faut qu'un. Donc, l'autre, il est vraiment fort, comme dit Fred, et effectivement, d'après les retours qu'on a, c'est quand même un sacré joueur d'avenir, il n'y a pas de raison.
C'est même une réalité, parce qu'il a pris une dimension vraiment importante.
Oui, on le voit. Garder un jeune comme ça. Après, est-ce qu'il aura l'espace en fonction de.
Vous me permettrez quand même de dire que briller à Valence, c'est pas la même chose que briller au PSG. Même si le championnat d'Espagne est très compétitif, déjà c'est le poids dans le club, dans l'équipe, etc. C'est pas le même quand même.
C'est que où tu vas mettre Guedes quand il va arriver, quoi.
Non, mais déjà si d'autres partent, après tu as quand même une rotation à 4 joueurs devant.
S'il accepte et que ça lui va,
je pense que ça va lui aller.
C'est plus simple de laisser sur les bancs Guedes que Di Maria encore une saison. Si tu vois déjà qu'est-ce qui s'est passé après Madrid, imagine.
Bon, cher conseiller sportif du PSG, visiblement la vie est entendue.
Prendre note du conseil.
Simplement votre avis par rapport à ça. Moi, j'aime les joueurs qui prennent la responsabilité, qui se disent à un moment, ok, c'est moi maintenant. Et ça, dans les grands clubs, dans les grands moments, ça fait du bien.
Ouais, non, c'est sûr. Après, est-ce qu'il arrivera effectivement à le faire au Paris Saint-Germain aussi bien qu'à Valence et aussi vite qu'à Valence?
Fred, tu voulais nous parler.
C'est un jeune joueur. Je signale quand même aujourd'hui, c'est un sujet qui est quasiment jamais abordé. Bon, je fais très court parce que sinon j'empiète sur les dents le dame.
Pas de problème.
Mais il y a un jeune joueur qui est venu pour beaucoup beaucoup d'argent cet été, Mbappé. Mm-hmm. Alors certes, il doit pas être bon dès cette année. mais dans les mois qui restent là, va falloir quand même qu'il montre un petit peu plus que ce qu'il a montré. Parce que la bombe atomique que toute l'Europe a vue à Monaco l'année dernière, on l'a pas encore complètement vue au PSG.
Pas complètement. Alors, il a fait
encore
des belles
une
choses,
fois,
mais...
parenthèse, ouais, il est jeune, on a le temps. Il va aller à la Coupe du Monde, peut-être titulaire en équipe de France, il aura l'occasion. Mais pour l'instant au PSG, il est encore un peu timide. Hein.
Fred, pose ta casquette de conseiller sportif, mets ton costume de docteur, puisque donc docteur Hermel, où en sont Kroos et Marcelo concernant leur blessure au Real?
Alors, Kroos, qui est la blessure qui s'est produite justement, mon cher Daniel, bravo pour la transition, suite à un choc avec Mbappé la 35e minute mercredi soir. Toni Kroos, quand même, qui, en bon allemand, a serré les dents et a tenu jusqu'au bout du match, alors qu'il avait très très mal au genou.
Il a quand même une grosse entorse. Quand on est d'une autre nationalité, ouais, on est un peu plus fiotasse, comment ça se passe?
Non, ce genre de cliché, là, ça passe pour les Allemands ou pas?
Non,
parce que y a pour d'autres pays, tu serais déjà cloué au mur.
Mais parce que les Italiens sont pas comme ça, eux, ils sont chochottes, justement.
Il a joué jusqu'au bout et il a une entorse au genou gauche, incertain bien entendu pour Paris, même si les médecins pensent que ça peut le faire. Mais là, la grosse inquiétude, c'est Marcelo hier soir. Donc, comme vous le savez, et surtout Pierre, puisqu'il a joué quand il y a une déchirure musculaire. Alors, j'ai fait un petit tweet hier soir, j'en ai parlé dans l'after, les gens disent, comment tu sais, t'es médecin? Bah, excuse-moi, enfin, j'ai vu 2-3 matchs. Quand un type tout seul s'arrête, net, met sa main juste derrière sa cuisse, en général, on appelle ça un claquage, hein. Il faut pas être un grand médecin pour le voir. Après, avant l'IRM, on peut pas savoir exactement
Madrid, ils attendent une semaine pour la faire.
Non, faut attendre que les hématomes se résorbent toujours.
Excusez-moi, moi je suis pas médecin, mais je pratique les communiqués de presse, notamment des clubs espagnols, en termes d'indisponibilité dû à un état de santé.
Ils vont rien te dire.
Bah, ils disent rien et puis c'est pas fiable surtout. Ils peuvent annoncer que Marcelo est absent.
Ils vont te dire demain. Parce qu'en fait, en gros, il y a un communiqué officiel et puis après il y a
l'interprétation.
Puis on peut quand même passer 2-3 coups de fil encore.
Ah d'accord.
C'est fini le temps. Et puis parler aux médecins du Real direct. On peut plus les avoir. Moi, à l'époque, quand Zidane jouait, le docteur Hernandez, j'avais son portable, il me répondait tout de suite parce que c'était naturel, hein, pas parce que je suis génial, hein, mais parce que c'est normal. Aujourd'hui, il y a un obscurantisme autour de ça,
ils vont pas tout faire pour le soigner, on va pas l'envoyer.
Non, mais s'il a 2 cm, s'il a 2 cm ou 3 cm.
Non,
mais
s'il a 2 cm.
Et Daniel, si avec un sang
ou 2 cm ou 2 cm ou 3 cm de déchirure, ouais, comme c'est possible. Bah laisse tomber, il sera pas là dans 15 jours, quoi, c'est tout.
Mais Fred, on est d'accord que demain sur la com, s'il y a une chance pour Marcelo d'être là, ils vont le dire. S'il y en a pas, ils vont dire la même chose, qu'il va peut-être être prêt, voilà, que ce sera juste, etc.
Je suis d'accord. Surtout, il y a la com de presse de Zidane. Il y a la com de presse de Zidane. Et Zidane, c'est comme Ancelotti, il ne ment pas. Lui, il dit la vérité.
Non, mais bon.
Donc on le saura demain, on saura en cours de presse de Zidane si Marcelo sera là, si Marcelo.
La Ligue des Champions pour toi cette semaine, Fred, le Barça et Séville.
Alors le Barça qui a un petit peu émoussé physiquement, ils s'en sont bien sortis à Eibar, parce que à 11 contre 11 c'était compliqué. On sent que le mois de janvier a été dur, parce qu'il y a eu la coupe, ils ont joué tous les 3 jours, donc ils sont un peu émoussés. Puis je pense qu'ils ont un peu aussi la tête malgré tout au match à Stamford Bridge ce mardi, donc demain. Mais sinon bon voilà, Messi, Suarez, tout le monde est prêt pour cette rencontre importante. Et je pense que le Barça est très très bien armé pour rencontrer Chelsea. Je vais pas redire ce que j'ai dit depuis des semaines, mais je continue à penser que le Barça est le grand favori pour la Ligue des Champions cette saison. Il y a une intelligence dans cette équipe, une capacité à gérer les matchs, un grand entraîneur et puis un Messi quand il a envie, qui fait encore ce qu'il veut à un niveau exceptionnel. Donc je suis pas du tout inquiet pour le Barça. Et du côté de Séville, et là je suis content d'avoir mon ami Simone Rovella, Montella, ça commence à le faire, hein. Ça commence à le faire. Ça y est, il a le vestiaire avec lui. Cette équipe de Séville qui mercredi soir va rencontrer le Manchester United de José Mourinho. Alors c'est très triste ce qui s'est passé avec Berizzo, viré alors qu'il venait juste d'être opéré d'un cancer de la prostate. Mais c'est vrai que Montella a un meilleur rapport.
C'est complètement
avec
remis d'ailleurs, il paraît, de Berizzo.
Oui, oui. Oui, il a officiellement il est guéri là. Donc, on sait très bien qu'avec les cancers, il y a mais en tout cas, l'opération s'est bien passée. Il est, pour l'instant, il est guéri, donc c'est quand même une bonne nouvelle. Mais Montella, il me plaît bien. C'est un type sensé. Alors, je sais pas ce que tu connais beaucoup mieux que moi, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment un type sensé et un type qui met l'équipe avant lui, enfin, qui cherche pas à être la star, qui cherche pas à être le patron, un certain, comme ça. Il fait son boulot en accord avec les joueurs, avec une vraie autorité, et puis ça se voit sur le terrain que ça fonctionne, quoi. Je sais pas s'il était comme ça en Italie, cher Simone.
Et je peux te dire qu'il a beaucoup appris des mois compliqués à Milan. Ces derniers mois, elles étaient très compliquées, mais avant, il avait fait des belles choses et c'était quelqu'un qui met avant tout, il met avant les jeux. Le jeu, c'est la première chose. Il veut faire jouer bien son équipe. Pour ça, peut-être, c'est même pas un entraîneur trop italien dans l'idée d'aller chercher les résultats avant tout, de bétonner quand les choses vont mal. C'est quelqu'un qui cherche toujours à trouver une solution avec les jeux et je crois qu'il est beaucoup plus
mieux en Espagne
qu'en Italie. Ouais. Après, c'est une belle semaine. On a trois entraîneurs italiens sur quatre matchs, donc c'est intéressant pour le foot italien. On a plus d'entraîneurs en Ligue des Champions que des clubs qui rencontrent.
Alors bien entendu, Manchester United est largement favori dans cette rencontre. C'est la différence de moyens. Enfin, ça n'a rien à voir. Hein. C'est pas la même planète. Mais le fait en plus que le premier match soit
assez pronostic de bookmaker à Londres de Jean-Louis Tour.
Booktour. Qu'est-ce qu'il dit, Booktour?
Non. Manchester favori sur Séville.
Ah, écoute, oui.
Pour la qualif. Je sais pas si c'est si évident. Je pense que c'est équilibré. Je pense.
Quand même.
La différence de moyens, c'est quand même un truc de malade.
Je vais vous dire ça, les enfants. Un vrai agent.
Mais ce qu'il y a de simplement, c'est que parfois on dit souvent que le match retour est essentiel. Je crois justement là que jouer le match à la maison, c'est un avantage pour Séville. Parce qu'en jouant bien, etc. Voilà, ils sont capables. Et puis Séville comme public, bonjour. Hein, c'est fabuleux. Hein.
Moi, je vous dis, je joue sur les deux matchs. Vu l'état de Manchester United, je joue Séville.
Alors je vais vous dire, vous connaissez les cotes.
Mm-hmm. Ouais, vas-y.
Donc c'est 1 contre 3 pour Manchester United, 9 contre 4 pour Séville. Donc Manchester United largement favori.
Ouais, mais là c'est en Angleterre.
Chez les bookmakers.
9 contre 4, ça veut dire quoi? On comprend rien.
Ouais, 9 contre 4, c'est à peu près, c'est du 2 contre 1, grosso modo. 2 contre 1 pour Séville, 1 contre 3 pour Manchester United.
On aurait pu te dire, c'est du 18 contre 8, c'est pareil.
Ouais, voilà.
Bon, ok. Ou de 36 contre 18.
C'est exactement.
Oui.
Bon. Non, 16. Sauf que 9 contre 4, c'est pas 2 contre 1, et pas exactement.
Non, c'est vrai.
Très bien.
Un petit coup de chapeau, rapide.
Vite fait, vas-y.
Non, tout simplement Coutinho. Alors Coutinho, comme on le sait, il n'est pas qualifié pour la Ligue des Champions, hein, puisqu'il avait joué cette compétition avec Liverpool. Et Coutinho, aujourd'hui, il avait jour de repos, puisque ses collègues étaient partis à Londres. Et ça fait du bien. Alors, il a une mauvaise mésaventure, c'est que sa voiture a été prise par la fourrière. Et c'est comme ça qu'on a su qu'aujourd'hui, il a fait une sortie culturelle, il est allé visiter la Sagrada Familia. Ça fait du bien d'avoir des footballeurs qui, quand ils arrivent dans une ville, décident d'aller voir les monuments historiques, d'aller dans les musées, d'aller voir des choses comme ça. Donc la Sagrada Familia qui était cette
basilique,
puisque toujours en travaux, oui, du grand Gaudi, c'est un monument extraordinaire, etc. Donc je trouve ça rassurant d'avoir des footballeurs qui s'intéressent à autre chose qu'aux jeux vidéo, qui restent pas planqués dans leur maison toute la journée. Donc il s'est fait prendre sa voiture par la fourrière, mais c'était pour la bonne cause. Bravo à Coutinho.
On les encourage pas aussi, les footballeurs.
Je vois 2026, la fin des travaux prévus sur la Sagrada Familia.
Ouais. Ouais. Je crois que de mon vivant, je le verrai pas. Parce que
ah bon?
Mais oui, non, mais oui, parce que c'est une œuvre qui ne peut jamais se terminer. Enfin, voilà.
Ça fait partie.
Les travaux font partie de l'âme de cette basilique, puisqu'elle a le titre de basilique du grand Gaudi.
Et oui, bien sûr.
Simplement, je suis désolé, mais déjà deux fois. Ouais, non, parce que Pierre disait, on les encourage pas, les footballeurs, à se cultiver.
Bah oui, parce qu'on leur enlève leur voiture.
Il y avait une réflexion derrière.
Non. Non, tu sais, moi, je joue
donc
jeux
je
vidéo,
te gère en fait. Pas la pierre. Pierre et qui roule et qui la bouge.
Allez, jeux vidéo, instant, messieurs.
Alors là, me demande pas moi, je suis.
L'Angleterre.
J'ai horreur de ça.
Très bien. L'Angleterre et l'Allemagne au programme. Il y aura d'ailleurs un coup de gueule de David Lorto. Eh oui, ne ratez pas ça. A tout de suite.
RMC, le super football show. L'after foot, Jean-Louis Tour.
Avec Daniel Riolo, avec Pierre Ducrot, on est en pleine page avec les drôles de dames comme tous les lundis entre 23h et minuit dans l'after. On a fait le foot espagnol, on a fait le foot italien. Avant l'Allemagne, place à l'Angleterre, jingle Philippe Auclair.
Il a été Pichichi, ou l'équivalent anglais Pichichi.
Et Philippe, là, tu veux, bah écoute, nous parler des finances de la première
ligue. Écoute, oui, alors je sais, je voulais.
Ah oui, mais
ce qui s'est passé ce soir fait que on parlera des finances de la première ligue un petit peu plus tard. On y reviendra parce que dans la mesure où on a appris aujourd'hui que Arsenal avait
récupéré. Je demande excuse-moi Philippe, Daniel se demande qu'est-ce que c'est que cette musique. C'est Will Grigg on Fire. Puisqu'on va parler de l'élimination de City.
Et on parlera plus tard justement de ces finales. On parlera plus tard des finales. J'ai vu
là-dessus debout sur les tables, pantalon.
Gala, elle s'appelait. J'étais à Irlande du Nord.
Absolument.
C'est Irlande du Nord, Irlande normale.
Non, je parlais pas de finale.
Je parlais de
Jean-Louis.
Et bien, t'as vu également. Irlande normale, Irlande normale.
Si, vous avez compris.
Et bien, c'était génial. C'était au parc. C'était
un match magnifique. À d'autres soirées avec des petites culottes sur la tête.
Non, pas du tout.
Là, tu j'ai des dossiers.
Non. pas comme ça.
Donc Philippe. Oui, juste pour dire, les finances, on en parlera plus tard, c'est parce que Arsenal vient de signer un énorme contrat de sponsoring maillot avec Emirates, et qu'on parlera des finances à venir de la Première Ligue et des inquiétudes que ça me pose, non pas pour la Première Ligue, mais pour le football dans le reste de l'Europe. Ça, c'est autre chose. Non, ce soir, je pense que c'est plus une question de parler de Wigan et de ce match Manchester City, parce que en plus de ça, il va y avoir des conséquences. Je ne sais pas si vous avez vu les images et du match, et ce qui s'est passé à la mi-temps, et ce qui s'est passé au coup de sifflet final. Si ça n'est pas le cas.
Non, on n'a pas vu grand-chose.
Avec Fabien Delph, oui, avec Guardiola, entre autres. Ouais. Fabien Delph a été expulsé pour avoir tout simplement un tacle qui était extraordinairement dangereux. L'arbitre sort d'abord un carton jaune, puis sort un carton rouge, etc. Donc, et Guardiola est absolument furieux et s'en prend très très violemment, je dois dire, à l'entraîneur Paul Cook de Wigan Athletic. Je pense pas que c'est quelque chose qu'on va lui laisser passer naturellement. Ensuite de quoi, le but de Will Grigg qui est magnifique, hein, ce but dans la finition, mais bon, complètement contre le cours du jeu, même à 10 contre 11, 82% de possession pour Manchester City, etc., etc. Et le gros Manchester City, hein. Et à la fin du match, pelouse envahie et un geste de Kun Agüero qui fait parler parce que apparemment il aurait poussé voire donné un coup de poing à un supporter de Wigan.
Ah oui.
Donc ça risque de faire des vagues. Ça fera des vagues médiatiques de toute façon. Hein. Quand je dis, moi je n'ai pas encore vu les images de ce qui s'est passé avec Kun Agüero, donc je vous répète ce que l'on me raconte. Et puis d'autre part, la réaction pour terminer de Pep Guardiola après cette rencontre que je trouve pas vraiment très classe. C'est moins qu'on puisse dire, puisqu'il a dit bravo à Wigan, toute petite pause, ils ont eu un tir cadré. Voilà, c'était sa réaction. Ce qui est quand même assez minable.
Inventeur de football.
Non, mais franchement, c'est vu, c'est pas des choses qui vont, c'est pas très classe, quoi. C'est pas très classe. Je comprends qu'ils soient.
Surtout contre une équipe de Détroit, quoi. Tu vas pas leur faire.
Qui a tout donné. Bon, ils ont pas été. En plus, c'est pas des découpeurs, c'est pas des bouchers, Wigan. C'est une équipe qui essaie de jouer au ballon. Oui. C'est une équipe qui. En plus de ça, bon, c'est un petit peu une équipe qui fait des malheurs. Hein. Manchester City, souvenez-vous de la finale de 2013. Ouais. Il la gagne, Wigan. Le Wigan de Roberto Martinez la gagne contre Manchester City dans le temps additionnel, un but de Watson. Et c'est une équipe, oui, qui a fait du mal à City. Et donc, ça, bien évidemment, on va se concentrer sur ce que ça signifie pour Manchester City et on va tirer beaucoup trop de conclusions de cette rencontre. Parce qu'en fait, ouais, on a assisté à un match de chaotique.
Il avait fait tourner Guardiola.
Bah écoute, pas vraiment, non. Ouais, te donner l'équipe de départ. Là, je vais l'avoir sous les yeux dans une seconde. Alors, il y avait Claudio Bravo, in the goal, bien évidemment. Arrière, tu avais Danilo qui a été épouvantable. Mais je dis bien épouvantable. Il a fait un match à oublier, terrible. Stones dans l'axe aux côtés de d'Emeric Laporte qui a loupé un but tout fait. Fabien Delph donc a été expulsé côté gauche. Fernandinho, Gundogan et David Silva en milieu de terrain, donc c'est quand même pas n'importe quoi. Pas, ouais. Et puis devant, Leroy Sané, Sergio Aguero et Bernardo Silva. Donc ouais. Vous pouvez.
Ah bah dis donc.
Ben oui, avec entrée de Kevin De Bruyne à la 65e et Kyle Walker qui, mis à part le fait qu'il se plante complètement sur le but de Will Grigg, fait une très bonne entrée en jeu à la pause, mais Ça veut dire que bon, cette équipe n'est pas invincible, on le savait. Ils ont déjà perdu contre Liverpool, ils avaient failli perdre contre Crystal Palace. Ils avaient perdu également contre le Shakhtar, n'oubliez pas, en dernier match de la phase de poule de la Ligue des Champions. Ils avaient eu cet effet d'effrayeur contre Naples. Ça veut dire que c'est une équipe qui reste humaine, qui reste prenable, tout ce qu'on voudra. Mais tu peux toujours te poser des questions sur les conséquences, les séquelles plutôt de ce qui s'est passé autour du match, plutôt que ce qui s'est passé dans le match lui-même. Guardiola visiblement l'a très très mal pris et on va voir quelles conséquences ça aura sur les matchs à venir. Et notamment le match de dimanche prochain, qui n'est guère que la finale de la Coupe de la Ligue, la Carabao Cup, contre Arsenal à Wembley, dimanche donc après-midi.
Intéressant. Oui, déjà.
Tu sais, Philippe, sur la réaction de Guardiola, je vais être bref, c'est pas la première fois qu'il est pas fair play du tout. Il y avait un match de Ligue des Champions à Copenhague.
Oui, ça lui est souvent arrivé, ça.
Il s'était pris la tête sur le banc de touche avec l'entraîneur de Copenhague, mais c'était vraiment assez lamentable. Donc, c'est quelqu'un qui ne réagit pas forcément bien dans l'adversité.
D'accord. Et surtout dans la défaite, alors, peut-être. Puisque...
Dans la défaite,
oui,
ou l'adversité,
parce qu'à
Copenhague, il n'avait pas perdu.
Il n'est pas habitué, il ne sait pas comment faire. Quoi.
C'est ça. Oui, il a du mal. Non, mais de toute façon, tout le monde sait que Pep Guardiola est une personnalité extrêmement complexe, extrêmement ambiguë, difficile à saisir, qui n'est pas nécessairement la personne la plus agréable du monde, mais qui est un génie, un entraîneur génial. Voilà.
Philippe, dans l'actu, nous avons Chelsea qui joue contre le Barça.
Oui, et qui joue beaucoup, et Antonio Conte joue énormément contre le Barça. Je m'attends pas à ce que vous assistiez à un festival.
Il joue sa tête et ses implants.
Il joue sa tête et ses implants. Je crois qu'il joue surtout sa réputation en Europe. Hein. Et Simone,
vu le nom qu'il a mis, oui.
Bien sûr
qu'il vaut très cher, mais en tout cas, ils sont de qualité.
C'est absolument magnifique ce qu'il a fait. Il va falloir qu'il trouve une solution. Alors Chelsea ne va pas si mal que ça. Ils ont ce week-end, ils sont plutôt rassurés. Giroud, c'est plutôt intéressant la façon dont il s'est intégré tout de suite dans l'équipe, dont il était impliqué dans les buts ce week-end, dont il s'entend avec Eden Hazard, tout ça. Mais c'est pas une équipe qui est aussi rentre dedans, aussi difficile et dangereuse que celle de l'an passé, de très très loin. Il manque des joueurs, il manque Matic, c'est un trou énorme dans ce milieu de terrain. Et tu te poses des questions sur leur capacité à jouer contre une équipe de Barcelone qui malgré tout montre de très belles choses en Liga, hein, même si jamais elle a ses petits problèmes elle aussi. Mais je crois que Antonio Conte, en plus de ça, il y a un problème de réputation en Europe. Simone, tu pourrais nous rappeler le palmarès, ou plutôt le non-palmarès d'Antonio avec la Juve, et en particulier en Ligue des Champions, c'est catastrophique. Et cette année, la Ligue des Champions était vraiment la compétition sur laquelle il voulait se concentrer.
Cette année, bon, même si ce que vous dites est vrai, si là, cette année, tu tombes sur le Barça, c'est...
Oui,
c'est Roma et Atlético, c'est pas simple.
C'est pas simple, ils sont sortis du groupe, ils avaient fait cette performance magnifique contre un Atlético qui, à l'époque, n'allait pas nécessairement bien. C'est toujours difficile, de toute façon, de faire des...
En tout cas, demain, contre le Barça, je pense que le scénario du match est un peu connu. Hein.
En théorie,
ça va défendre. Je mise sur
ça va défendre et beaucoup courir. À moins de 120 km bloc équipe, Chelsea, ils n'ont aucune...
ils seront à 130, t'inquiète pas pour eux.
À 130, c'est beaucoup, parce que le Real et le PSG, dans le match de la semaine dernière, 126-123, ce qui est déjà hallucinant.
Selon ce que disait l'envoyé de Sky Sport à Londres, qui était un ancien envoyé sur la Juve, donc on est très bien compté, demain on devrait revoir les 3-4-3 de la saison dernière avec une vocation plutôt offensive.
Ah d'accord, c'est intéressant à voir.
Ils vont attendre.
Alors,
ils vont
sortir. Ce sont les informations
dans
de Sky.
Dans les 3 du milieu, ils mettent qui
dans les 4 du milieu.
Donc, dans les 4 du milieu, pardon.
Dévoilé, mais j'ai l'impression qu'il dit ça, c'est-à-dire
Alonso à gauche,
qui sorte.
Moses à droite. Moses à droite, N'Golo Kanté et Cesc Fabregas, a priori. Ouais. Si jamais.
Et devant, Hazard.
Je serais très étonné de voir Giroud jouer d'entrée de jeu.
Ouais, ce que tu nous disais tout à l'heure.
Pourquoi Giroud il
joue? Ah oui,
bien sûr, oui.
Mm-hmm. Ah, l'Europa League, ça marche.
Tu peux ajouter un joueur qui a joué en Europa League. Donc, il est qualifié, Philippe, comme on dit, ou éligible.
Je voulais qu'on dise un mot aussi de Mourinho Pogba, épisode 12.
Oh là 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 là, ça va mal finir.
Je donne les propos de Mourinho après le match du week-end. Je ne sais pas ce qu'il a et je m'en fiche, a dit Mourinho en parlant de Pogba. En parlant de Scott McTominay, lui, il mérite de jouer. Il n'a pas de cheveux colorés, pas de grosses voitures ou de grosses montres, pas de tatouages. Est-ce que Pogba sera disponible contre Séville? Je ne sais pas. Il faudrait déjà que je comprenne pourquoi il a dit qu'il ne voulait pas jouer.
Voilà,
qu'est-ce qu'on fait tout ça, Philippe?
Écoute, le torchon brûle, comme on dit.
Oui, le torchon brûle.
Et que va-t-elle dire? Le torchon brûle.
Je ne sais pas. Ça. On n'a pas le temps de débriefer toutes les expressions.
On n'a pas le temps. On en a déjà parlé, Jean-Louis, avec Manu. Je t'avouerai que j'ai beaucoup de mal à comprendre comment l'affaire est partie en vrille, puisque au départ, les bruits sont partis du camp Mourinho de la bisbille. Ce qui est quand même assez étonnant. Ça veut dire que Mourinho, si jamais on s'imagine que
la cote pour un départ des deux à la fin de l'année,
au même endroit,
les deux.
Ah là.
Moi, je mise sur un départ des deux.
D'accord, mais écoute, on va regarder. Je vais poser la question à un bookmaker, mais j'ai pas la réponse tout de suite.
Pourquoi tu dis non, Jean-Louis? Je pense que Pogba va rester.
Et je vous signale que deux Pogba semaines avant que Mourinho prolonge, je vous avais dit, moi, je sens que Mourinho pourrait partir de Manchester, et vous m'avez tous les deux dit, je m'en rappelle très très bien, mais non, impossible, il va prolonger, il est là, il va rester.
Il me semble pas que je t'ai dit une chose comme ça.
Impossible.
Je te dis, impossible.
On était ici. Non, impossible.
Deux semaines.
Impossible.
Ne dis pas impossible de manière aussi catégorique.
Je dis depuis longtemps que dans l'univers Manchester, on va pas pouvoir supporter plus longtemps jouer aussi mal et de pas être sur le devant de la scène en Angleterre et en Europe.
En tout cas, c'est pas.
Je pense que là.
En tout cas, oui, c'est pas avant la rencontre contre Séville. Je pense pas que ça soit nécessairement ce qui est le plus rassurant. C'est pas que Manchester United ait été mauvais ce week-end en Cup. Ils ont fait le boulot. Ils l'ont fait plutôt correctement. J'imagine qu'on verra Paul Pogba dans le 11 de départ contre Séville. S'il ne l'était pas là, par contre, je pense qu'il faudrait que nous consacrions un petit chapitre spécial dans l'after à cette bisbille. Je pense qu'il s'agit vraiment d'une bisbille. Ouais. Moi, je suis pas comme toi, Daniel. Je vois les deux rester. Je vois les deux rester.
Ok, très bien.
Ça me rappelle énormément, c'était une autre époque, les clashs Mourinho-Balotelli à l'Inter, c'était 2010.
Ah bah moi, ça me rappelle le clash Mourinho-Benzema, on aurait pu en parler avec...
Ça rappelle le clash...
Vous avez remarqué, il y a toujours des clashs Mourinho avec quelqu'un.
Oui, c'est ça. Le clash, on en parlait également, Mourinho et Hazard, et regardez, Hazard est resté, ils ont gagné le titre ensemble. Juste une toute petite chose, très très vite, je voulais juste dire un mot du match de Riyad Mahrez pour Leicester contre Sheffield United.
Ah, ça y est, c'est remis à jouer.
Mais absolument, il n'y a aucun problème, la situation est réglée.
Ah bah,
Le problème, on le connaît, Daniel. Il y a Manchester City réglé. Qui est arrivé très tard dans le mercato avec une offre que Leicester ne pouvait pas accepter. Le joueur a eu la tête qui a tourné. C'est totalement normal quand t'as Pep Guardiola qui s'intéresse à toi, que tu réagisses mal.
Après, t'as le droit de te jouer sans attendre si longtemps quand même. On peut aussi dire ça.
Il a loupé deux matchs.
C'est pas la fin du monde. L'important, c'est qu'il se remette.
Et là, il est là, il est là, et bien là, il a été essentiel. Il a payé une grosse amende.
Il a été
essentiel dans la qualification de Leicester pour les quarts de finale. Et je ne serais pas surpris que Leicester aille jusqu'au bout en FA Cup cette saison. Je le dis maintenant.
Messieurs, on file en Allemagne.
Ah, Jung, ich bin der liebe Gott. Hein? Und ich höre die Herbe.
C'était de l'allemand?
Ouais.
Tu sais l'allemand?
Bah, tu vois.
Et là, le lundi, le foot le lundi, c'est pas ton truc, David?
Ah bah gros coup de gueule, énorme coup de gueule ce soir évidemment, historique ce match de Bundesliga qui a eu lieu ce soir, très bon au demeurant entre l'Eintracht Francfort et RB Leipzig.
Si c'était bon alors,
je
préfère un match pour une samedi après-midi.
Vous savez qu'en Allemagne, il y a un grand courant de romantisme. D'ailleurs, la belle bibliothèque de la Pléiade y a consacré deux tomes de 1500 pages, si ma mémoire est bonne. Vous avez là-dedans Goethe, vous avez là-dedans Germaine de Staël, vous avez Franz Liszt, vous avez Richard Strauss, vous avez Wagner, vous avez les frères Grimm, vous avez Hölderlin, vous avez Bertie Fox et Harald Schumacher. Et je suis peut-être le dernier représentant de cette lignée, même si j'écris pas encore dans la Pléiade. Et alors je suis peut-être un peu naïf, mais moi j'ai été choqué par la décision de la Ligue allemande d'ouvrir pour la première fois donc de l'histoire de la Bundesliga, qui a 55 ans d'existence, le lundi soir à des matchs cette saison. 5 en l'occurrence sont prévus, et ce soir évidemment c'était le premier d'entre eux. Il y a eu des matchs en retard dans l'histoire le lundi soir, mais c'était la première fois qu'un match était prévu un lundi soir ce soir. Les supporters les ultras de Francfort qui se veulent un peu en avant-garde en Allemagne pour donner un peu la direction de ce que les supporters doivent penser, ont protesté avant le match, se sont présentés juste derrière un but et ont retardé le coup d'envoi de quelques minutes, ont sifflé pendant 90 minutes avec des sifflets, avec des mégaphones chaque fois que Leipzig avait le ballon, ont refusé de supporter l'Eintracht chaque fois que celui-ci avait la balle, et à la mi-temps ont envoyé sur le terrain plusieurs centaines de balles de tennis pour protester aussi contre la tenue de ce match lundi soir. Et d'ailleurs, le match a été aussi retardé pour le coup d'envoi de la deuxième période.
C'est gâché, ces balles de tennis, tant quand même.
Un petit peu, c'est vrai. Qu'est-ce qui me choque là-dedans? La même chose que la majorité des supporters en Allemagne, c'est que, comme les banderoles, les innombrables banderoles le disaient ce soir dans les tribunes, le football, c'est le samedi soir. Et le lundi soir, même les coiffeurs ne travaillent pas. Il y avait une banderole qui disait, ce soir, dans les tribunes du stade, il y avait quand même 45 personne.
Bosse pas le lundi en Allemagne.
Les commerces, c'est-à-dire que les commerces sont fermés, quoi. Disons.
Mm-hmm.
Et la tradition en Allemagne, c'est de jouer le samedi, de jouer le dimanche éventuellement, et on ne joue pas le lundi. Et d'ailleurs, on soupçonne en Allemagne du côté des supporters que l'ouverture de ces matchs le lundi soir, ce soit pour empêcher les supporters des équipes adverses de se déplacer vers les matchs à l'extérieur.
Voilà,
et ça. Ça dérange un peu les supporters à ce niveau-là. Moi, j'avoue que je suis assez choqué. On nous dit en Allemagne, les dirigeants du football allemand nous disent, ça n'est absolument pas pour le commercial, ça n'est absolument pas pour continuer, c'est une expérimentation. 5 matchs sur 306, hein, il y a 306 matchs au total cette saison en championnat en Allemagne. Seuls 5 sont censés avoir lieu, enfin vont avoir lieu le lundi soir.
Si c'est pas pour ça, c'est pourquoi, David? Ils donnent pas de raison.
Mais ils essayent.
L'année prochaine,
il y aura un match tous les lundis. La même chose en Espagne.
Exactement.
C'est
aussi pour des raisons télévisées.
Bien sûr.
Et ce qui est un peu gênant, c'est que, comme le pressentent les supporters, c'est que on met un genou à terre face aux logiques commerciales. Alors après, évidemment, les acteurs disent, si c'est pour suivre les ligues les plus puissantes d'Europe, comme l'Espagne et comme l'Angleterre, et qu'on est obligé de faire comme cela, il faudra bien s'y plier parce qu'on veut pas devenir un championnat de seconde zone. N'empêche que le fameux match, la fameuse conférence, comme on dit en Allemagne, des matchs du samedi à 15h30, c'était une tradition que moi j'y suis attaché comme la majorité des amateurs, des suiveurs du football allemand, et que c'est un peu surprenant, toujours un peu bizarre d'avoir un match comme ça isolé le lundi soir, alors que le reste des matchs ont eu lieu pendant le week-end.
Bon, en tout cas, ce match a été sympa, avec donc la victoire de Francfort.
Très accroché.
Leipzig, hein, ouais.
Oui, il y avait 4 Français sur le terrain, messieurs, côté Leipzig, Upamecano en défense et Jean-Kevin Augustin qui a marqué un but.
Ouais.
Et côté Eintracht, Simon Fallette, le défenseur, qui est quand même très peu connu en France, qui vient de Metz, si madame
est bonne. Oui, bien sûr, c'est ça. Ouais.
Et puis Sébastien Haller qui est en attaque.
Florent Gautreau nous en avait souvent parlé. C'est vrai.
De Fallette.
Oui.
Non, mais c'est tout, c'est pour dire ça.
Non, mais c'est tout, David.
Non, mais une petite pensée
un mot sur Dortmund.
Oui, bien sûr, sur Reus.
Eh ben oui, parce que ça faisait 600 jours que les deux champions du monde et demi, Götze, Schürrle et Reus, n'avaient pas pu jouer ensemble et attendaient de jouer ensemble à Dortmund. Ça y est, ça a eu lieu ce week-end. Dortmund est deuxième de la Bundesliga ce soir. 19 points de retard, certes, sur le Bayern, mais Reus est revenu après 8 mois d'absence. Et Reus a marqué un formidable but ce week-end qui a donné la victoire à Dortmund sur la pelouse de Mönchengladbach. Et ce joueur-là, évidemment, est un joueur plus, un joueur bonus.
Oui, qui peut pas être blessé la moitié de l'année, quoi, malheureusement.
Et ben voilà, on peut lui souhaiter maintenant, lui qui a manqué l'Euro, lui qui a manqué la Coupe du Monde, on peut lui souhaiter d'avoir sa chance enfin pour la Coupe du Monde 2018. C'est vrai que l'Allemagne a besoin de talent et il manquera toujours un Marco Reus.
Oui, Reus, effectivement, magnifique. Et le Bayern avait fait tourner ce week-end?
Ah ben largement,
ça explique leur difficulté.
Oui, forcément.
Ça leur est souvent arrivé ces dernières semaines d'être un peu mené ou de croire, qu'on croit.
On en a parlé la semaine dernière.
Peut-être pas gagner, puis en fait, ils gagnent tout le temps.
Ils gagnent tout le temps 2-1 dans les arrêts de jeu avec un match quand même super intéressant, avec un pénalty manqué de Robben, avec des décisions arbitrales encore. Il faudra qu'on fasse le bilan en fin de saison, messieurs, de la saison d'arbitrage vidéo qui est considérée comme une expérimentation en Allemagne. J'essaierai d'en faire une synthèse parce qu'il y a du pour, il y a du contre.
Ah bon? Il ne peut pas y avoir du contre, c'est tellement génial.
Là, c'est trop tard pour lancer ce débat maintenant. Mais
c'est
effectivement,
pas pour ce soir.
Et alors, attends, si vous voulez, on peut garder 30 secondes pour parler du prodige de Leverkusen?
Ah ben Léon Bailey, oui, je vais y consacrer un avis tranché parce que ce jeune attaquant,
il est fabuleux,
qui totalise, je crois, 9 passes décisives et 6 buts, quelque chose comme ça, ou l'inverse, est très influent cette saison à Leverkusen, et c'est grâce à lui en particulier dans cette équipe, ce jeune attaquant, que Leverkusen va sans doute accrocher une place en Ligue des Champions en fin de saison. Léon Bailey à suivre, on en reparlera plus en détail dans un after suivant.
Parfait, messieurs, merci beaucoup.
Et demain, le Bayern en Ligue des Champions contre Besiktas.
C'est ça. On n'a même pas le temps de parler de la voiture de Daniel. Il est en train d'acheter une voiture. Là, vous auriez pu tous l'aider avec vos spécificités respectives.
Mais
j'ai
pas le permis. Alors c'est vite fait.
Mais lui aussi, il est fan de marque qui coûte un peu.
Et il paraît que Daniel, on t'a retiré le permis au début de ta.
Ah, il y a pas mal de temps quand même. C'est ça.
C'est mieux. Oui, mais ça m'est venu sur Twitter.
C'était en 2009.
Et ben, il est bien arrangé.
Et Jean-Louis, juste une petite chose qui a son importance. Une chose qui peut être qui a son importance. Apparemment, la citation qui avait été donnée par le journaliste de la BBC de Guardiola est tronqué.
Ah,
donc
bon,
attention les gars, attention.
Allez voir sur le compte Twitter de Arthouk, Philippe, on va retourner ça. Arthouk, c'est fini, Arthouk. L'after Arthouk revient cette semaine après les matchs de Ligue des Champions. Bonne nuit à tous.
Salut à tous.
Adios. Ciao.
RMC, le super football show, l'after foot.